Le grand face-à-face, Thomas Negarov sur France Inter.
Je veux m'adresser à tous ces Français, souvent de la classe moyenne, toujours au rendez-vous de leurs responsabilités, qui ne se plaignent pas alors qu'ils ont souvent le sentiment de subir. À ces Français qui ont le sentiment d'avoir tous les devoirs quand d'autres ont tous les droits. À ces Français qui ont parfois le sentiment que leur propre pays s'éloigne, qu'ils n'y ont plus vraiment leur place alors qu'ils en sont le cœur battant. À ces Français de l'entre-deux, trop riches pour bénéficier des aides, mais pas assez pour ne pas compter, qui ont le sentiment que les décisions se prennent sans eux et qu'elles bénéficient toujours aux mêmes. Je les entends, je les comprends, je veux contribuer à leur répondre. Je le veux avec d'autant plus de détermination que je sais le risque pour eux de les laisser céder à des sirènes qui ne conduiraient qu'au chaos, à la division et à l'effondrement. Car je suis lucide. Pendant que nous agissons, certains guettent, entretiennent les colères et espèrent en récolter les fruits.
Bonjour Gilles et Natacha.
Bonjour.
Un extrait du discours de politique générale de Gabriel Attal prononcé en début de semaine. On l'a entendu, hein, défense des classes moyennes, risque de l'extrême droite, opposition entre les bons et les mauvais Français. Est-ce que Gilles, c'est un peu comme ça que vous avez entendu cet extrait et plus largement ce discours de politique générale?
Un discours de politique générale, c'est un peu un rite initiatique ou un exercice ou un moment de bizutage pour un pour un Premier ministre. Et c'est en fait c'est intéressant d'y revenir quelques jours après, en ayant laissé un peu retomber ce moment où on reçoit un discours avec autant de propositions. Et peut-être deux remarques pour commencer. La première, sur l'exercice lui-même, sur la forme, c'est un exercice difficile. Plusieurs premiers ministres ont trébuché. Je pense qu'il a passé la haie. Il y a deux critiques qui ont été formulées. Ce discours était long et 56 pages, 1h20 de discours. De fait, le discours était très long, mais il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que le Premier ministre qui prononce une déclaration de politique générale est face à un dilemme. S'il fait court, on lui dira « vous n'avez pas parlé de tel et tel sujet ». S'il parle de tous les sujets, on lui dit « vous faites long ». Il a choisi de faire long, au moins ça peut avoir, on y viendra après sur le fond, l'avantage de fixer une feuille de route. La deuxième critique qui a été formulée, et c'était intéressant parce qu'on l'entendait, c'est le débit qui était extrêmement rapide. Et là, témoignage d'expérience, quand vous êtes au banc du gouvernement à l'Assemblée nationale, ce que le téléspectateur ne mesure pas, c'est à quel point cet hémicycle est un hémicycle petit, un hémicycle bruyant, le téléspectateur n'entend rien d'autre que l'orateur, le Premier ministre qui parle, le Premier ministre qui est à la tribune entend tout. Et il est couvert par un brouhaha, et un brouhaha de plus en plus insupportable. Et le choix que fait Gabriel Attal, c'est de faire comme si cela n'existait pas, et de parler vite pour qu'il n'y ait aucun espace pour ce brouhaha. C'est un arbitrage, mais c'est un exercice qui est compliqué. Et puis deuxième remarque pour commencer sur le fond, parce que on pourra aller plus loin sur la volonté réformatrice. C'est comme tout Premier ministre qui arrive, il affiche sa volonté d'ouverture, de dialogue, sa détermination à agir. Il y a un certain nombre de propositions très concrètes, mais il y a deux choses qui m'ont frappé. C'est l'hypertrophie du bilan d'Emmanuel Macron depuis 2017 dans un discours qui est plutôt normalement un discours programme, et surtout le fait que, et c'est pour ça que j'ai relu le discours le lendemain et le surlendemain, en réalité, il n'y a à peu près aucune nouvelle proposition de réforme législative. Comme si le Premier ministre avait acté l'impuissance dans laquelle il était d'agir, avec cette conviction que les Républicains, qui par bien des aspects pourraient être réjoui de ce discours, n'était plus un partenaire, et que donc il fallait en prendre acte.
En même temps, il y a une spécificité. Je réfléchissais pendant que vous parliez. Je ne sais pas, ça fait combien de temps qu'un Premier ministre prend la parole en étant un peu obligé d'être à la fois dans la continuité de ce qui a précédé et d'ouvrir une nouvelle page. Parce que il y a eu des Premiers ministres d'un second mandat, mais c'était après une cohabitation. Il n'y avait pas de rupture, là.
Non, c'est le cas de quasiment tous les deuxièmes premiers ministres d'un quinquennat.
Oui, mais là, c'est après un quinquennat entier.
Non, là on est au milieu, là on est au milieu d'un, on est au milieu d'un quinquennat.
Mais
comme Jean Castex était au milieu du quinquennat, comme Manuel Valls était au milieu du quinquennat, comme.
Oui, mais il n'y avait pas autant de profondeur d'air, il n'y avait pas autant d'années qui étaient passées.
Oui, là il y a un bilan.
Il y a un bilan et un passé
et
ou un passif.
Et un bilan qui commence à être long. C'est-à-dire que cela fait tout de même 7 ans que ces gens sont au pouvoir et sont comptables de la situation. On ne peut plus faire comme si, même si je suis la première à dire qu'on paye 30 ans de politique, là, tout de même, 7 ans, ça commence à compter. Je rejoins Gilles sur la question de la forme. Je fais partie de ceux qui ont trouvé que Gabriel Attal s'en tirait bien, et ça n'est pas étonnant, puisqu'en effet, si on peut lui reconnaître quelque chose, c'est le sens de la communication, et donc la capacité à comprendre ce qui va fonctionner. Il y avait un côté bon acteur. J'ajouterais que, pour ma part, je me suis quand même amusée à écouter ce jeune homme prononcer 23 fois le mot « souveraineté ». C'est quand même assez délicieux. Pour ma part, je me suis suffisamment fait insulter pour avoir trop parlé de souveraineté, pour ne pas trouver assez extraordinaire de voir que c'est devenu une espèce de poncif, que donc le Premier ministre peut parler de reprendre le contrôle et de maîtriser son destin à peu près toutes les phrases. Il termine par « Nous sommes la France ». Très sincèrement, j'y ai vu un hommage. L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu. Non, je cesse de plaisanter. Ce qui est intéressant, en effet, dans ce discours, ces premiers points, Gilles l'a dit, si on décortique quasiment toutes les mesures qui sont annoncées, on avait l'impression qu'elles étaient débitées à la mitraillette, ont déjà été annoncées et sont déjà mises en place. Il ne s'agit pas de dire que ce sont de mauvaises mesures. Pour ma part, il y a des choses avec lesquelles je peux être parfaitement d'accord, d'autres non. Le problème n'est pas là. C'est, en effet, déjà lancé et déjà en place. Deuxième point, on en revient toujours au même problème, celui de ce pouvoir qui veut contenter les amateurs de l'ordre et de l'ordre économique. C'est-à-dire, le volet, on a très bien compris le volet réarmement civique, on a très bien entendu l'idée du travail et du mérite, mais quand Gabriel Attal nous explique que les Français ont l'impression que ça bénéficie toujours aux mêmes, je prends le pari que ça va continuer à bénéficier toujours aux mêmes. Ça, c'est extrêmement clair, et il y a donc dans ce discours une dimension antisociale qui est assez intéressante parce qu'en fait elle révèle toute la difficulté dans laquelle se retrouve Gabriel Attal, parce que il n'a pas de marge de manœuvre budgétaire. Il est face à une dette qui a été largement augmentée par Emmanuel Macron, des taux d'intérêt qui remontent, une Union européenne qui lui demande de maîtriser son budget, et donc que fait-il ? Eh bien, il parle d'autre chose. Il parle de l'école, il parle des classes moyennes, et à côté de ça, il détricote petit à petit les protections, c'est-à-dire l'état social, qui est la dernière marge de manœuvre qui lui reste pour essayer de grappiller un tout petit peu d'argent.
Antisocial, le mot employé par Natacha, comment vous l'entendez-vous, Gilles ?
Alors, je vais rebondir sur ce que dit Natacha. J'ai deux remarques. Une sur l'orientation idéologique. Quand on écoute les mots, le lexique, ça, il a été beaucoup souligné qu'on croyait entendre parfois Nicolas Sarkozy. Disons que ce mot, ces lexiques étaient doux à la droite. Les mesures sont dures aux plus fragiles. Non pas, je crois, pour des raisons d'absence de marge de manœuvre budgétaire. Il y a notamment deux mesures qui sont, je crois, les deux mesures les plus lourdes, qui sont la suppression de l'allocation spéciale de solidarité pour les chômeurs en fin de droit et la révision de la loi SRU, et notamment le fait que...
C'est la loi qui assure la mixité...
Exactement, qui assure la mixité...
Dans les villes
territoriale et qui, en intégrant les logements intermédiaires dans les logements sociaux, va...
Logements intermédiaires pour les classes moyennes, voire moyennes supérieures.
Mais ces deux mesures-là, la dimension marge de manœuvre budgétaire est relativement secondaire. Deuxième remarque sur la méthode. On disait, Gabriel Attal parle vite, on voit qu'il veut aussi agir vite. On voit que c'est un gouvernement qui se sent pris par le temps et qui veut, c'est le mot que Emmanuel Macron d'ailleurs répète depuis maintenant 7 ans, à chaque crise, il faut, quand il y a une crise, on va accélérer. C'est un gouvernement qui veut accélérer. Et ce faisant, c'est moins de concertation, hein, c'est l'élément qui sort notamment pour les projets d'industrie verte, moins de débats publics et moins d'expérimentation ou de fausses expérimentations. Quand il y a une expérimentation, eh ben, il faut un peu de temps de regarder comment ça marche et est-ce qu'après on généralise. Qu'est-ce qui va se passer pour le service national universel? Oui. Il y a une expérimentation, eh bien on va généraliser. Le RSA, les 15 heures de travail en contrepartie du RSA, expérimentation, eh bien on va tout de suite généraliser. L'uniforme à l'école, il va se passer exactement la même chose. Il n'y a que la semaine, non pas de 4 jours, mais en 4 jours dans la fonction publique pour laquelle il y a à nouveau une expérimentation. Mais cette accélération du temps, avec ce double effet, moins de concertation, moins d'expérimentation, me semble là aussi intéressant.
Là-dessus, Natacha, est-ce qu'il y a une petite tonalité populiste dans les discours de Gabriel Attal, qui a employé beaucoup, beaucoup de fois le mot bon sens, qui a parlé de retrouver le contrôle, qui était le slogan du Brexit, la débureaucratisation, l'idée de vouloir aller très, très vite, de parler de normes qui viennent d'on ne sait. Est-ce que vous avez aussi remarqué un peu ça dans le discours de Gabriel Attal ?
C'est tout le problème de quelqu'un qui utilise des mots qui vont à l'inverse de tout son parcours politique et de tout ce qu'a défendu son camp politique pendant des années. C'est pour ça que je soulignais avec ironie la question de la souveraineté. C'est-à-dire que quand on appartient à un parti qui a, ou à un mouvement politique qui a systématiquement expliqué que ces sujets-là ne comptaient pas et qu'on était dans un moment d'adaptation à la mondialisation et qu'il ne fallait surtout pas prendre en compte ceux qui enfin, les mauvais coucheurs, les cassandres, comme dit Emmanuel Macron, il y a là un paradoxe et on ne peut pas croire que ce soit autre chose que des mots. Et quand on a tendance à utiliser les mots sans y croire, en effet, on en rajoute un peu. Donc oui, il y avait une dimension populiste dans la façon dont Gabriel Attal surjouait la compréhension des classes moyennes, de ces Français qui croient au mérite. J'ajoute deux petites choses. Premier point sur la loi SRU, cette décision-là, qui est une escroquerie absolue, puisque donc ça va permettre à des mairies qui n'avaient pas les 25% de logement social de prétendre les avoir en y intégrant les logements intermédiaires. C'est pour faire plaisir aux maires de droite. Donc certes, il y a l'idée que au Parlement, on n'arrivera pas à gagner la droite, comme le disait Gilles, mais pour autant, là, il s'agit de cela, il s'agit de contenter. Deuxième point, ce que je n'ai pas entendu et ce qui n'était pas présent dans ce discours, c'est une réflexion systémique sur les difficultés que rencontre la France. C'est-à-dire qu'une fois que Gabriel Attal s'est réjoui qu'il y ait un petit peu plus d'industrie depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il n'y a aucune analyse des raisons pour lesquelles nous sommes en difficulté avec une croissance qui est atone et qui ne crée pas d'emplois, avec une paupérisation qui crée des emplois, mais paradoxalement qui crée aussi de la paupérisation, avec une crise agricole majeure. Et tout cela n'est jamais analysé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, rien ne va être mis en œuvre pour changer, pour jouer sur les leviers essentiels. Et on va y venir quand on va parler de la crise agricole.
Le grand face-à-face. Le duel.
Tout commence il y a 3 ans. C'est un salarié du groupe Alma au départ, hein, qui produit les marques Cristaline, Saint-Yor, Châteldon. Ce salarié signale à la répression des fraudes que l'entreprise Alma traite son eau, avec des traitements interdits, notamment des filtres à charbon actif, des filtres UV. Ces traitements donc qui sont utilisés pour l'eau du robinet, mais pas du tout pour l'eau minérale naturelle, qui, je le rappelle, doit être naturellement pure.
Marie Dupin de la cellule investigation de Radio France sur France Info pour révéler les découvertes de fraude massive de géants de l'eau, dont Nestlé. A priori, rien de grave pour la santé, ce sont les mêmes traitements que pour l'eau du robinet, on l'a entendu, mais une tromperie avec des ramifications politiques embarrassantes pour le pouvoir. Est-ce que c'est ça qu'il faut surtout retenir, Natacha ?
C'est très intéressant cette histoire. Alors elle est un peu complexe, en effet, et elle part de cette idée qui était souligné dans l'extrait, que de l'eau minérale naturelle ne doit pas être filtrée puisqu'elle est naturellement préserver des bactéries qui pourraient être dangereuses pour l'homme. C'est pour ça d'ailleurs que, encore une fois, et vous avez eu raison de le dire, cette fraude ne touche pas la santé. Au contraire, c'était fait pour améliorer, pour préserver véritablement la santé des consommateurs. En revanche, c'est une tromperie, puisque l'eau minérale naturelle est payée cher par les consommateurs, parce que justement, elle est censée être pure sans traitement, et que là, visiblement, ça n'était pas le cas. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte ? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez des pompages de nappes phréatiques. Il y a d'ailleurs des débats avec des militants qui expliquent que c'est un bien commun et qu'on a donc des entreprises privées qui s'approprient un bien commun. Bon, ces nappes phréatiques sont contrôlées, c'est-à-dire que les entreprises qui gèrent ça payent les paysans, par exemple, qui ont leur terre au-dessus de la nappe phréatique pour qu'ils n'utilisent pas de pesticides, pour être sûr de limiter la pollution, de qu'il n'y ait pas de pollution dans ces nappes phréatiques. Pour autant, certaines sont un peu plus en surface, l'eau d'épar, par exemple. Et donc, c'est une eau beaucoup plus compliquée à gérer parce qu'elle est plus fragile. Et puis, vous avez des sécheresses, des canicules depuis certaines années. Donc, le niveau des nappes phréatiques baisse et donc la pureté de l'eau est un peu moins garantie. Et c'est là qu'intervient très certainement ce filtrage de l'eau qui visiblement relève d'une tromperie, comme semble le montrer l'enquête, puisque ça a été parfaitement caché. Et tout le problème est que la DGCCRF et Bercy ont été mises au courant et ont fermé les yeux. Et ça, c'est tout de même quelque chose de profondément gênant quand le gendarme qui est censé vérifier que le consommateur n'est pas trompé accepte qu'une grande entreprise finalement pratique une tromperie au consommateur. J'ajoute encore une chose. Quand on se renseigne sur l'évolution, par exemple, d'une entreprise comme Nestlé Waters, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure, on a eu nettement moins de spécialistes de l'eau chez Nestlé Waters, c'est-à-dire de gens qui connaissaient ce produit-là, qui est un produit extrêmement fragile, et de plus en plus de commerçants. Si vous regardez, par exemple, la proportion de publicité et de promotion faite sur des eaux telles que Vittel, par exemple, eh bien, elle a largement augmenter, ce qui prouve qu'en fait on est passé d'un positionnement de qualité à un positionnement de volume. Et on ne fait pas du volume avec un produit fragile et un produit qui met en jeu une notion de préservation de l'environnement et de la santé des gens. C'est encore une fois une question d'appétit
du capitalisme,
d'une multinationale qui a oublié que la qualité et la connaissance du métier étaient quand même des valeurs essentielles.
Gilles, votre analyse de cette tromperie aux ramifications politiques, mais aussi aux ramifications écologiques, parce que la question est politique, la question de l'eau, la question de sa place dans l'économie marchande, la question aussi du plastique, parce que c'est aussi du plastique, ça ouvre plein de sujets en réalité.
Absolument, Natacha disait c'est un sujet un peu complexe, c'est un sujet hyper technique quand on lit l'enquête, notamment l'enquête du Monde et que l'on entend l'enquête de Radio France. Deux choses. D'abord, je trouve que c'est quand on regarde le déroulement, c'est la généalogie exemplaire, archétypique d'une crise. Donc, quand je dis exemplaire, non pas de l'exemple à suivre, mais de l'exemple à méditer. Il y a un problème sur les eaux minérales. L'entreprise cherche et trouve une solution technique. Comme cette solution technique contrevient à la réglementation, elle choisit la dissimulation au pouvoir public et aux consommateurs. Quand ce n'est plus possible, elle essaye de rendre légal ce qui était illégal avec des demi-vérités et un chantage à l'emploi. Les pouvoirs publics, quant à eux, choisissent de garder le secret tout en adaptant localement la réglementation pour régler le problème et en lançant des inspections pour se couvrir. Tout cela est pour terminer, pour couronner le tout, quand l'affaire est dévoilée, donc avec cette enquête, eh bien, l'entreprise fait son mea culpa en minimisant l'affaire. Tout cela est vraiment archétypique. Bon, deuxième remarque, à l'échelle du problème de l'eau, cette question-là peut sembler, et elle est d'une certaine manière anecdotique, c'est-à-dire dans l'utilisation globale de l'eau, les trois quarts, c'est l'agriculture, c'est le refroidissement des centrales, c'est l'industrie. Et même dans notre utilisation individuelle de l'eau, 93%, c'est tout ce qui a trait à l'hygiène, c'est l'eau du bain, de la douche, des sanitaires, du linge, de la vaisselle. Le reste, principalement l'alimentation.
Parce que vous ne faites pas votre vaisselle avec de l'évian ou de la vitelle. Ben Gilles, enfin.
Et donc c'est 1% seulement oui. La boisson. Et dans la boisson, entre ce que l'on consomme d'eau potable, l'eau de source, ce dont on parle là, c'est-à-dire l'eau minérale naturelle, ce n'est qu'une part absolument infime. Donc, à l'échelle du problème global, ça peut sembler anecdotique. Mais à l'échelle de la consommation d'eau par les individus, l'enjeu est absolument déterminant. Il y a à la fois une dimension économique, parce que c'est un très gros marché au niveau mondial, c'est un très gros marché pour la France, qui est le premier exportateur mondial d'eau minérale. Et c'est là où c'est intéressant, ça intervient dans un contexte qui était difficile avant même cette crise, parce qu'il y avait, au-delà des différences de coûts, évidemment considérable entre l'eau que vous achetez en bouteille et l'eau potable, des enjeux, des batailles pour ça, d'un point de vue sanitaire pour savoir quelle est la meilleure eau pour la santé, et une bataille écologique avec la question du plastique.
Le grand face-à-face, le duel.
Nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'Europe c'est notre avenir. L'Europe c'est l'espace de paix dans lequel nous avons la chance de vivre depuis près de 80 ans. En revanche, concernant la question agricole, cette Europe technocratique, nous ne la comprenons pas. Nous n'en comprenons pas ni les ressorts, ni la vision. Et nous constatons que les sujets portés autour du Green Deal et singulièrement du Farm to Fork, le fameux de la fourche à la fourchette qui est la déclinaison agricole, n'est pas au rendez-vous. Et donc réaffirmer son attachement à l'Europe, c'est aussi réaffirmer notre volonté de combattre cette technocratie, ces décisions prises de loin qui ne respectent pas le travail des agriculteurs qui ont encore une fois la noble mission, celle de produire pour nourrir.
C'était jeudi après-midi, juste après la prise de parole de Gabriel Attal depuis Matignon, les propos d'Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA, satisfait, qui annonce la levée des blocages, mais qui frappe comme un sourd sur l'Union européenne. Natacha, est-ce que le projet européen est le grand perdant de cette crise agricole ?
Alors, le projet européen ne devrait pas être le grand perdant de cette crise agricole si on réfléchissait à ce que doit être l'Europe et à la façon dont elle doit protéger les intérêts des citoyens des pays européens. Tout le problème est que l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est un espace de mise en concurrence généralisée et de mise en concurrence interne et externe. Et on le voit très bien sur l'hypocrisie généralisée sur ces traités de libre-échange. C'est-à-dire qu'on a désormais un Emmanuel Macron qui va se faire vraiment le pourfendeur de ces traités de libre-échange au nom de la protection des paysans français, après avoir signé les précédents traités de libre-échange sans aucun problème. Si on regarde la façon dont se passent les votes au Parlement européen, les positions des différents pays européens, on s'aperçoit que nous sommes les seuls en Europe à être opposés au traité de libre-échange. Et que donc, il y a de fortes chances pour que notre opposition ne tienne pas. On voit que, par exemple, l'industrie automobile allemande plaide déjà pour que soit appliqué au traité avec le Mercosur ce qui a été mis en œuvre pour le CETA et pour d'autres, à savoir qu'on scinde l'accord. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va mettre d'un côté la dimension politique de collaboration, de coopération entre les espaces, qui là relève de la souveraineté des États membres de l'Union européenne, et de l'autre côté, la dimension commerciale, qui du coup ne dépendra que de la Commission européenne, de l'Union européenne elle-même, et qui donc pourra être votée sans qu'on demande leur avis aux États membres, ce qui permettrait donc de tout simplement faire passer ce traité. J'ajoute une chose, c'est que il faut expliquer pourquoi nous sommes les seuls à être opposés à ces traités. Parce que notre agriculture a une structure très spécifique. Nous sommes les seuls à avoir une structure, avec sans doute l'Italie, une structure d'agriculture paysanne qui est fondée sur des terroirs. Les autres pays européens ont développé, parce qu'ils n'ont pas la même géographie, parce qu'ils n'ont pas la même histoire, une agriculture industrielle. L'Allemagne, ces dernières années, a ouvert des fermes-usines avec des milliers de porcs, ce qui d'ailleurs taille des croupières à la filière porc française. en utilisant des ouvriers polonais ou ukrainiens qui venaient travailler dans ces usines. Et donc, il ne voit absolument pas pourquoi il faudrait maintenir ce modèle d'agriculture paysanne qui pourtant relève de notre exception, de la vision que nous avons de ce qu'est se nourrir et qui, à mon avis, est un peu plus saine. C'est là tout l'enjeu.
Gilles, est-ce que c'est une grave crise européenne qui est devant nous, même si il y a eu les 50 milliards pour l'Ukraine, donc il y a des avancées, on arrive à travailler ensemble, mais quand on entend Emmanuel Macron remettre en question des principes même qu'il avait parfois un peu défendus, effectivement la question du libre-échange, est-ce qu'on se dit que là, ça risque de coincer Olaf Scholz, dit immédiatement que le Mercosur a été très important pour lui.
Oui, ça coince, et sur cette question agricole, ça coince dans beaucoup de pays européens simultanément.
En effet.
Vous aviez demandé à Natacha qui était le grand perdant. Le grand perdant, ce sont les enjeux sanitaires et environnementaux. On a longtemps reproché, à bon droit, je crois, à Emmanuel Macron de ne pas, et à son gouvernement de ne pas faire assez de politique. Je pense qu'on peut leur reprocher aujourd'hui de faire trop de politique. Au sens où, et c'était exactement la même chose avec la loi immigration, l'issue compte plus que le contenu. Il fallait voter le texte immigration, quel qu'en soit le contenu, il fallait sortir de cette crise, quels qu'en soient les coûts. Deuxième remarque sur la question de la souveraineté qu'évoquait Natacha. Et là, c'est, disons, je fais part d'une insatisfaction. Le mot souveraineté est devenu le nouveau mantra, le nouveau mot magique. Natacha a souligné que Gabriel Attal l'avait prononcé 23 fois dans son discours. J'ai regardé combien de fois Édouard Philippe puis Jean Castex l'avait prononcé au cours du premier mandat.
Intéressant.
Une fois chacun. Et donc ça illustre bien ce changement de période. Mais pourquoi insatisfaction ? Parce que ce mot magique est aussi un mot valise. Oui. Dire souveraineté alimentaire, ça ne veut rien dire. Et donc il faut maintenant aller le cran d'après.
Pourquoi ça
souveraineté
veut rien dire ?
Pourquoi ça alimentaire veut rien dire ? Mais parce que, sauf à considérer que la souveraineté alimentaire veut dire que nous ne dépendrons pour notre alimentation de personne, que nous allons consommer tout ce que nous allons produire et inversement, et évidemment que ça ne veut pas dire cela. Donc, ça veut dire qu'il faut aller plus loin, dire sur quoi précisément il faut être souverain, à quel niveau, qu'est-ce qui est au niveau national, qu'est-ce qui est au niveau européen, à quel coût, c'est ce débat-là qu'il faut avoir. Et puis, et j'en termine par là, l'autre insatisfaction, elle est sur, et ça fait aussi écho avec la déclaration de politique générale, sur cette question des contrôles. Maintenant, de la même manière, les normes, c'est horrible, et les contrôles, c'est horrible. Très bien. Les contrôles, c'est horrible. Sauf qu'on a vu sur l'eau, dont on a parlé précédemment, que l'absence de contrôle, c'est un problème. Et on a supprimé la semaine dernière, le Premier ministre a annoncé la suppression d'un certain nombre de contrôles pour les agriculteurs. Dans le même temps, cette semaine, c'est plus de contrôle pour le respect de la loi Egalim et c'est plus de contrôle pour les produits importés. Donc là aussi, insatisfaction sur la qualité du débat, il faut aller jusqu'au bout. Le contrôle, c'est la contrepartie de l'existence des règles et des normes. On peut discuter du rythme de ces contrôles, de la manière dont ils se passent, de leur tonalité, des moyens dont disposent ceux qui contrôle, mais il faudrait quand même avoir une doctrine un peu cohérente sur
Alors,
cette question-là.
Je suis d'accord pour la cohérence et je suis d'accord sur le fait que le mot souveraineté est vidé de sa substance, justement par cette instrumentalisation politique. Pour autant, sur la question des contrôles, le problème est de savoir qui on contrôle. Or, jusqu'à présent, on contrôlait essentiellement les paysans. En revanche, une loi Egalim et même deux lois Egalim n'ont pas suffi à faire plier la grande distribution et l'agroalimentaire, ce qui prouve bien qu'il y en a qui sont un peu plus contrôlés.
Mais oui, le problème, c'est quand le bon contrôle, c'est toujours le contrôle des autres, quoi.
Non, le problème, c'est que le bon contrôle doit être le contrôle contre les intérêts les plus puissants. Or, ce n'est jamais le cas. Deuxième point, et c'est un des immenses problèmes de la structure même de l'Union européenne, c'est que l'information du consommateur apparaît comme quelque chose de néfaste. Souvenez-vous du scandale de la viande de cheval dans les plats préparés. L'Union européenne s'était opposée farouchement à la volonté du ministre de l'Agriculture de l'époque, Stéphane Le Foll, de faire inscrire la provenance de la viande sur les plats préparés. L'Union européenne, la Commission, avait répondu que c'était une distorsion de concurrence. C'est-à-dire que quand le consommateur choisit librement le système qu'il veut défendre, c'est une distorsion de concurrence. Et ça, c'est au cœur même de la conception que la Commission a de l'agriculture, c'est-à-dire un produit industriel comme un autre qui peut être tenu par des multinationales. C'est un choix de civilisation fondamental. Et il faut, en effet, avoir ce débat et l'avoir jusqu'au bout.
Alors, sur l'information aux consommateurs, Emmanuel Macron et Gabriel Attal ont rappelé qu'ils allaient pousser en Europe l'idée que le consommateur soit mieux informé de la provenance des produits qu'il consomme.
Il était temps, au bout de 7 ans, en effet, ça peut être intéressant.